Bonjour, nous sommes 8 étudiants de l'ISCOM et nous avons réalisé un podcast en nous mettant dans la peau de professionnels des futurs métiers du métaverse. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de l'Observatoire de l'accélération digitale. Je suis Estelle, animatrice de cet épisode consacré au métier du métaverse. Du fait de la révolution technologique, une multitude de métiers ont évolué et d'autres ont émergé et font désormais partie des nouveaux métiers de notre monde actuel. Pour nous donner l'opportunité de mieux comprendre les enjeux de ces métiers du métaverse, nous avons la chance d'avoir avec nous autour de cette table ronde 7 professionnels dont le métaverse fait partie de leur quotidien aujourd'hui en 2032. Alexandrine, qui est aujourd'hui guide touristique virtuel, Louis, avocat au sein du métaverse, Charlène, conseillère matrimoniale, Alison, chef de projet événementiel, Margot, closing designer, Chloé, chef de projet artiste, et enfin, nous avons Ambre, architecte. Bonjour Ambre, merci d'être venue au micro du podcast. Nous avons hâte d'en savoir plus sur ton parcours, que tu nous expliques comment ton métier a évolué et comment il s'est intégré au métaverse.
Bonjour Estelle, eh bien écoutez, c'est avec plaisir que je me retrouve ici ce soir. Tout d'abord, j'aimerais commencer par vous dire que si l'on avait dit à la petite Ambre de 10 ans ce qu'elle ferait plus tard comme métier, je vous avoue que je ne vous aurais vraiment pas cru, car je suis architecte dans le métaverse, effectivement, depuis maintenant 15 ans. Et c'est avec passion et enthousiasme que je découvre des nouvelles choses tous les jours. Nous n'avons jamais vraiment fini d'en apprendre, en fin de compte, avec le métaverse.
Génial. Et donc, du coup, afin que nous comprenions et que nous visualisions ton métier, peux-tu nous expliquer la différence entre être architecte dans la vie réelle et architecte dans le métaverse?
Alors, c'est une très bonne question que moi-même, je me suis posée tout au début. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai compris les quelques différences que l'on peut effectivement rencontrer. Je pense tout simplement que beaucoup de sites de métaverse n'ont pas les limites du monde réel, telles que le temps, le budget ou l'espace physique. Je peux donc avoir carte blanche la majorité du temps si je souhaite donner libre cours à mon imagination. Cela pourrait d'ailleurs donner un nouvel élan peut-être à l'architecture traditionnelle, ce qui conduirait à une amélioration de la qualité de vie, renaissance architecturale futuriste.
Et donc, du coup, qu'est-ce qui t'anime le plus dans ton métier d'aujourd'hui?
Je pense que ce qui me fait le plus vibrer est le fait que je puisse créer des choses rapidement. Lorsque j'étais architecte dans la vie réelle, auparavant, je devais attendre longtemps avant de pouvoir voir mes réalisations finies. Les chantiers étaient très longs et parfois assez compliqués. Alors que dans le métaverse, je suis maître de ma propre création, je décide de ce que je veux. Quand je veux, où je veux, je n'ai pas besoin d'attendre des mois et surtout, je possède des matériaux que l'on ne possédait pas à l'époque. Donc, tout est bien plus moderne et plus soigné.
Merci, Ambre, pour ton partage et ton témoignage. C'était super intéressant. J'ai également à mes côtés Alexandrine, guide touristique virtuel. Bonjour, Alexandrine.
Bonjour, Estelle.
Pardon. Peux-tu nous en dire plus sur ton métier et nous expliquer en quoi il consiste?
Merci pour ta question, Estelle. Alors, je dirais spontanément que être guide touristique virtuel, c'est partager ses connaissances sur le monde du métaverse en proposant aux avatars de voyager et de découvrir des lieux très différents. C'est vraiment un métier qui me passionne. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'on peut faire un aller-retour Paris-New York sans bouger de chez soi. Par exemple, prendre une heure pour visiter virtuellement la ville entre deux réus. Donc, c'est comme une véritable immersion entre plage et gratte-ciel, comme si on y était dans la vraie vie. Mais le métaverse, c'est un monde très vaste, on peut vite s'y perdre. Il y a donc un réel besoin d'aider les utilisateurs à se repérer pour leur offrir la meilleure expérience virtuelle possible.
C'est vrai que je trouve complètement hallucinant et incroyable de pouvoir aujourd'hui voyager sans même se déplacer. Et aujourd'hui, la découverte de cultures et d'autres pays est accessible à tous, donc c'est complètement fou. Mais dis-moi, comment est né ce métier?
Alors, au début du métaverse, il y a une dizaine d'années, c'est Benidorm, qui est une station balnéaire sur la côte est de l'Espagne, qui fut la première destination touristique européenne à annoncer son positionnement dans le monde virtuel. Après, des grandes villes l'ont rapidement rejoint comme Tokyo ou Séoul. Et la France a mis un peu plus de temps à s'y mettre. On était un peu frileux concernant le métaverse. Mais en avril 2022, la ville de Cannes a annoncé sur Twitter être la première ville de France à investir dans le métaverse pour se tourner vers l'avenir, mais aussi pour numériser et pour valoriser les éléments de son patrimoine. Ensuite, tout s'est accéléré, le métaverse n'a cessé de s'étendre, ce qui a fait monter en flèche le tourisme virtuel.
Ok, et du coup, tu peux nous expliquer à quoi ressemble une journée typique dans ton travail?
Oui, alors je m'assois dans mon canapé, je mets mes lunettes de RH, je branche mon micro, puis je commence ma vie organisée du jour. Je suis spécialisée dans le tourisme français, donc ça peut être aussi bien Paris que Marseille, Bordeaux ou Lyon. Je fais la présentation et l'explication détaillée des zones intéressantes comme pourrait le faire un guide touristique dans la vraie vie. Et je rajouterais que pour exercer ce métier, il faut vraiment avoir une bonne connaissance du métaverse, un bon sens du relationnel et une très bonne communication.
Effectivement. Et aujourd'hui, donc, à l'ère où tout évolue en une fraction de seconde, as-tu une idée de l'avenir de ton métier ?
Eh bien, pour moi, c'est un métier du futur qui va cesser d'évoluer et de s'adapter aux nouvelles technologies. Alors oui, le métaverse ne remplacera jamais le tourisme réel. Manger une brochette au bord de la mer Baltique, c'est forcément pas pareil que manger un burger virtuellement. Mais le métaverse propose des expériences uniques qu'on ne peut pas proposer dans la vraie vie, comme se promener dans le temps ou interagir avec des personnages d'époque, ou même visiter des monuments disparus comme la bibliothèque d'Alexandrie. Pour moi, il apporte vraiment une plus-value.
Merci Alexandrine pour ton partage d'expérience. Je me tourne désormais vers Louis, avocat. Bonjour Louis.
Bonjour Estelle, merci de m'accueillir.
Nous sommes curieux d'apprendre comment être avocat dans le métaverse. Peux-tu nous expliquer ?
Alors oui, bien sûr. C'est vrai que la création du métaverse, elle est venue poser plusieurs problématiques pour les différents corps de métier, comme on a pu le voir. Mais c'est vrai que cette question, elle peut sembler être simple, mais on se rend compte qu'il y a un schéma plus complexe qui se dessine avec celui de l'univers numérique qu'on connaissait tout simplement avec les jeux vidéo, où on pouvait incarner, comment on appelle ça, un personnage fictif comme dans GTA ou dans les Sims, mais on reposait essentiellement sur le sens moral des joueurs. Cependant, le métaverse, c'est un peu une extension de nous-mêmes avec tout simplement un avatar. Et cet avatar, ce serait vraiment, comment on appelle ça, nous, mais à l'intérieur d'un jeu, d'un écran numérique, sauf qu'on pourrait penser qu'une fois à l'intérieur de ce monde virtuel, on n'aurait pas des questions concernant la discrimination, les crimes ou les délits, mais on remarque effectivement le comportement des joueurs, il peut empiéter sur la sphère sociale du métaverse, notamment avec la rencontre d'agressions plus récemment, une agression sexuelle sur une jeune étudiante.
Du coup, aujourd'hui, dans notre monde actuel, on peut être puni par les actes que nous faisons à travers notre extension imaginaire ou pas ?
Alors, c'est une question extrêmement intéressante, Estelle, mais effectivement, le droit ne répond pas encore à ces problématiques, même si la majorité des professionnels du droit pensent qu'on doit simplement punir ces crimes et ces délits avec des sanctions. Et dans le même registre, mais c'est complètement différent, la question des biens et des propriétés à l'intérieur du métaverse va aussi poser des problématiques où les professionnels du droit devront tout simplement entraîner une mutation pour pouvoir s'adapter et effectivement mieux évoluer sur les prochains litiges qu'on pourrait rencontrer demain.
Merci beaucoup Louis, c'était super intéressant de voir comment le droit est appliqué au sein du métaverse et ainsi de voir le métier d'avocat intervenir, donc vraiment merci beaucoup. Nous accueillons désormais aussi Charlène, conseillère matrimoniale. Bonjour Charlène.
Bonjour Estelle.
Donc à travers ton métier, tu aides des individus à s'épanouir dans leurs relations, à communiquer entre eux. Sais-tu comment le métaverse a chamboulé les relations entre les individus ?
Alors, il est vrai que le métaverse a vraiment révolutionné les relations entre les individus, donc qu'elles soient amicales, amoureuses ou même dans le cadre du travail. Donc, si on s'intéresse aux relations amoureuses, virtuelles et donc à distance, qui existaient déjà il y a des années, le métaverse a multiplié le champ des possibles en permettant à des avatars donc de se rencontrer dans leur monde, en pouvant créer de réelles relations par le biais du Web3 et donc en dépassant le stade de s'appeler face caméra. Aujourd'hui, donc, on a de plus en plus d'avatars chaque jour qui vont se connecter entre eux dans le métaverse, donc des êtres à part entière et humains qui partagent de vrais moments de la vie réelle. Et cela peut donc passer donc, par des réunions entre collègues, des moments shopping entre amis et même donc, des dîners entre couples.
Mais du coup, pourquoi ces nouvelles relations nécessitent que le métier de conseiller matrimonial se soit développé dans le métaverse ?
Alors, de plus en plus de personnes donc vont rechercher des relations amoureuses saines et durables à travers donc la réalité virtuelle et augmentée. Et ces nouvelles relations entre les individus qui se sont créées donc petit à petit, elles sont nécessairement différentes de celles que l'on a pu avoir dans la vie réelle autrefois. Et elles ont donc besoin d'être accompagnées, d'être suivies dans la vie réelle. Donc, si les individus en ressentent le besoin, c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc le métier de conseiller matrimonial dans le métaverse est plus que nécessaire pour construire des relations durables et saines dans ce nouveau monde comme dans la vie réelle. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour aider les gens et particulièrement les couples à entretenir une relation durable et saine dans un environnement sûr pour que ce couple ou futur couple puisse s'exprimer librement et soit épanoui. Donc, je conclurai que n'importe quel couple, qu'il soit virtuel, à distance, réel ou dans un espace du métaverse, doit pouvoir se faire aider s'il en ressent le besoin.
Totalement vrai. Merci beaucoup, Charlène, pour ces explications sur ton métier. Maintenant, c'est au tour d'Alison, chef de projet événementiel, de nous expliquer comment l'événementiel a pu passer du physique au totalement virtuel. On t'écoute, Charlène.
Merci beaucoup, Estelle. Alors oui, on le pensait déjà impossible il y a quelques années. Les événements, aujourd'hui, ne sont plus physiques. Le monde évolue et après les avoir rendus totalement digitaux pour s'adapter à des événements majeurs comme les pandémies, comme on a pu le voir, c'est aujourd'hui dans le métaverse qu'on peut réellement se retrouver. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, toutes vos idées, même les plus dingues, peuvent exister dans le métaverse. À l'heure actuelle, c'est vraiment le monde artistique et professionnel qui s'en est emparé avec l'organisation de séminaires totalement construits dans cette réalité virtuelle. Mais aussi, si vous avez besoin de produire du coup des séances de team building, Meta, anciennement Facebook, a créé vraiment son propre espace virtuel qui s'appelle Horizon World, qui a été conçu pour accueillir de grands événements. Mon rôle là-dedans, c'est que je vais pouvoir vous établir un devis en moins de 24 heures qui va vous permettre de concrétiser n'importe quel projet. En tant que chef de projet événementiel aussi dans le métaverse, c'est mon rôle du coup de pouvoir vous permettre de pouvoir voir grand. Le côté pas fun de la réalité, c'est qu'on a trop de freins finalement. La géographie, le temps, les dates. Demain, si vous souhaitez vous marier à Las Vegas depuis votre salon, c'est quelque chose qui vous est totalement envisageable. C'est aussi l'occasion de donner plus de poids à de réels combats. Sans ces contraintes, chaque personne qui le souhaite pourra s'engager pour une cause qui lui tient à cœur en participant à n'importe quel événement. Et donc, n'importe qui pourra se créer sa propre identité qu'il n'oserait pas forcément dans la réalité.
Et donc, par rapport à ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu peux nous exprimer, est-ce que tu as les mêmes missions en fait dans le virtuel que dans le réel ?
Alors oui, il faudra pouvoir choisir un espace, l'acheter s'il appartient pas déjà à quelqu'un pour pouvoir y inviter les avatars que l'on souhaite. Comme dans la réalité, le rôle d'un chef de projet événementiel sera de prévoir, planifier, négocier, parce que finalement, on ne deal plus avec de l'argent, donc de l'euro, mais en termes d'éther. Et là où on gère de l'argent, finalement, il y a toujours du business. C'est aussi pour cela que ce sont les marques qui se sont emparées les premières de ces mondes, donc pour être précurseurs de ce nouveau mode de communication.
Merci beaucoup, Alison. C'était un plaisir d'avoir ton retour sur un métier comme celui-ci. Intéressons-nous désormais à un métier dit immergé, celui de Margot, qui est closing designer. Bonjour, Margot. Comment définis-tu le métier de closing designer dans le métaverse et qu'est-ce qui te différencie d'un designer lambda?
Eh bien, écoute, Estelle, c'est une très bonne question. Tout d'abord, il faut savoir que les avatars, comme vous et moi connaissons tous aujourd'hui, pour lesquels je crée chaque jour des vêtements, chaussures, accessoires, sont l'équivalent des photographies numériques d'autrefois. Sur ces photos, je suppose que comme moi, vous aimiez être bien habillé, car c'était une image qui vous représentait dans le temps. Vous pouviez la poster sur les réseaux sociaux et cela vous permettait de créer des liens avec d'autres personnes postant également des photos d'elles avec des vêtements qui faisaient ressortir leur personnalité. Pour en revenir aux avatars, vous le savez, ils nous permettent aujourd'hui de nous exprimer virtuellement, sans limite inhérente à notre corps. C'est pour cette raison que les habiller est tout aussi essentiel que de s'habiller dans la vraie vie. Tout comme les designers de mode, que je qualifierais de lambda, c'est-à-dire ceux qui confectionnent des vêtements réels destinés à un besoin primaire qui est celui de s'habiller pour maintenir notre température corporelle, eh bien nous autres, designers de mode métaverse, créons nous-mêmes des designs audacieux et non conventionnels dans le but premier de vous proposer des collections uniques afin de personnaliser vos avatars à l'infini en fonction de vos goûts, de vos envies et de vos personnalités. Des choses que personne n'aurait imaginées à l'époque sont aujourd'hui, en 2032, plus possibles et réalisables que jamais. S'il y a 10 ans, vous m'auriez dit, ou plutôt vous auriez dit à mes grands-parents, voire même à vos parents, que des personnes seraient aujourd'hui payées à imaginer et réaliser des vêtements pour des personnes virtuelles, je pense sincèrement, Estelle, qu'ils vous auraient ri au nez. Et pourtant, c'est désormais monnaie courante et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que les tendances propres au multiverse résonnent aussi dans la vie réelle.
Ça, c'est sûr. Mais du coup, selon toi, à quel moment et comment est né le métier de closing designer dans le métaverse ?
Écoute, encore très bonne question. Je pense que pour y répondre, il faudrait faire un petit tour en arrière. 10 ans en arrière, en 2022, quand le métaverse était encore une notion assez floue. Dans l'univers de la mode, qui, on le sait, est un monde relativement conventionnel, avec des règles strictes, il paraissait inenvisageable d'habiller des avatars, de figures inanimées derrière un écran. Alors, vous allez sûrement me demander pourquoi. Eh bien, c'est simple. Au départ, pour un designer de mode, le but, c'est de créer des vêtements, certes, mais pas que. C'est aussi de ressentir une émotion à travers une pièce unique. Sa matière, l'odeur de son tissu, son toucher, etc. Alors, comment faire ressentir cette même émotion à travers une image que l'on ne peut même pas toucher ou sentir ? Eh bien, cette année-là, donc en 2022, plusieurs créateurs de maisons réputées telles que Gucci, Paco Rabanne ou encore Givenchy se sont lancés l'incroyable défi de mettre un pied dans le métaverse. Cela a commencé par la création de NFT, puis quelques mois plus tard, la création de la toute première Metaverse Fashion Week. C'était un rendez-vous 100% virtuel qui s'est tenu du 24 au 27 mars 2022 et qui comprenait des défilés, des expériences, mais aussi des after-parties sur la plateforme Decentraland. L'occasion d'en apprendre davantage sur le métaverse à travers l'œil de professionnels tels que la photographe de mode et férue de NFT Adeline May. Cet événement va alors faire naître ce qu'on appelle aujourd'hui des wearables, donc qui sont en fait tout simplement des NFT de vêtements ou d'accessoires que l'on peut porter à son faire porter à son avatar et par extension donc le métier de clothing designer dans le métaverse.
C'est complètement fou. Merci beaucoup, Margot, pour tes explications.
Avec plaisir.
Passons maintenant à notre dernière professionnelle du métaverse, Chloé, qui est chef de projet artiste. Bonjour, Chloé.
Bonjour, Estelle.
Pourrais-tu nous expliquer à ton tour ton métier, s'il te plaît ?
Merci de ton invitation. Je suis en effet chef de projet artiste spécialisé dans le métaverse. Donc, avant d'entrer un peu plus en détail dans mon métier, j'aimerais dire quelques mots de contexte afin que tes auditeurs comprennent mieux les enjeux de mon travail. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple pour un artiste de diffuser sa musique en ligne. La multiplicité des plateformes et des réseaux fait qu'il peut avoir des auditeurs, voire des fans partout dans le monde, sans avoir même à se déplacer. Et cette globalisation de la musique se retrouve évidemment dans le métavers.
Alors, pourquoi un artiste souhaitant se lancer dans le métavers devrait-il faire appel à une chef de projet comme toi ?
Tous les métaverses permettent de vendre des œuvres numériques actuellement. Encore faut-il s'y faire une place et donc adopter une bonne stratégie marketing pour se faire connaître. C'est pourquoi les chefs de projet artistes sont aujourd'hui devenus essentiels. Les possibilités infinies qu'offre la réalité virtuelle font qu'une véritable spécialisation a vu le jour. Et donc, pour ainsi dire, je suis un peu un trait d'union entre l'artiste et le monde de la réalité virtuelle et je veille à ce que son travail s'incorpore au mieux dans ce marché. Donc, tout d'abord, il s'agit de lui expliquer le fonctionnement du métaverse et en quoi y être présent pourrait être bénéfique pour lui. Ensuite, on discute beaucoup afin de cerner au mieux ses envies et d'envisager les bons leviers à actionner.
Et est-ce que tu peux nous dire quels sont les résultats généralement ?
Eh ben, ils sont très positifs. Certains artistes ont rencontré une audience totalement nouvelle qu'ils n'auraient jamais pu avoir dans la réalité. En effet, le nombre d'intermédiaires est réduit au maximum, ce qui diminue drastiquement les coûts, que ce soit ceux du marketing, de la promo ou de la fabrication des disques. Et même la plupart des artistes ont vu une augmentation de leurs revenus grâce à la rareté de certains de leurs morceaux qui se sont vendus très cher. Et donc, ils sont forcément très heureux car ils ont désormais les moyens d'offrir des projets de qualité à leurs fans. Et en fait, c'est un véritable cercle vertueux.
Mais du coup, est-ce que c'est possible de mener une double carrière dans la réalité et dans le métaverse ?
Oui, carrément. En 2022, on a le groupe Muse qui a mis 1000 exemplaires de son album au format NFT. Ces exemplaires ont été comptabilisés dans le classement des ventes d'albums au Royaume-Uni au même titre que les CD, téléchargements et équivalents streaming. Et aujourd'hui, les artistes que je représente sortent des chansons et albums inédits dans certains métaverses, tout en continuant à sortir des albums physiques disponibles à tous. Le mix se fait selon les projets et envies artistiques de chacun. Il n'y a aucun schéma prédéfini, donc ils ont une très grande liberté.
Ok, top. Bah, écoute, merci beaucoup Chloé et merci à vous tous d'avoir été avec nous pour entamer cette première saison et d'avoir participé à ce premier podcast, 7 métiers dans le métaverse en 2032. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. On espère que ce podcast vous aura plu et si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter l'épisode sur vos différentes plateformes d'écoute et aussi à le commenter. On se donne donc rendez-vous semaine prochaine, même jour, même heure, pour découvrir notre deuxième épisode sur le sujet. Prenez soin de vous et à bientôt !